Ça vous dirait de vous réinventer? Peut-être que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le raconter. Je vous pose la question parce que hier, en lisant un livre de poche signé Douglas Kennedy au pays de Dieu, dans lequel il retrace des rencontres dans le vieux sud des États-Unis, je suis tombé sur ce personnage qui a plein de noms, qui sont autant de réinventions. C'est Thomas sans H, le Cubain qui a fui la Havane. Thomas avec un H quand il débarque aux États-Unis, Tom pour sa femme et puis pour ses collègues de travail, même Tommy Baby. Et le voilà qui dit à Douglas Kennedy, c'est ce qui me plaît dans ce pays, l'Amérique. On peut réinventer son nom en fonction de chaque contexte. On peut se réinventer entièrement, en fait. Et en quelques mots, ce Tom, Thomas ou Tommy Baby énonce ce qui est, à mon sens, l'une des plus belles mythologies américaines sur laquelle reposent 1000 romans, 1000 personnages, 1000 destinées de papier, 1000 vies. Cet art si étrange pour nous Français de savoir se réinventer, de savoir qu'on en a ne serait-ce que la possibilité, de savoir qu'on en a toujours le droit. On trouve notamment les bases de cette philosophie chez Ralph Waldo Emerson qui chantait déjà au milieu du 19e siècle, l'indépendance, la confiance, la possibilité de la seconde chance. Et je vous conseille un tout petit essai d'Emerson qu'il publie pour la première fois en 1841 et qui traduit en français s'appelle « Compter sur soi ». C'est un manuel d'existence pour moi.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a toujours revendiqué le droit de se réinventer. Elle a donné quelque chose du ton, du son, du look aussi des années 80 dans Réminiscence, son autobiographie en librairie mercredi. Elle revient sur ses évolutions heureuses ou malheureuses, ses succès, ses déconvenues, ses fulgurances, ses coups d'éclat. Bonjour Jeanne Masse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci.
Ce matin, c'est un plaisir. Mais d'abord, combien de fois est-ce que vous vous êtes réinventé, vous?
À chaque fois que j'ai refait un album, je me suis réinventée. À chaque fois que je me lève le matin, j'essaie de me réinventer. En fait, c'est ma survie à moi. Je suis là pour la découverte de moi-même et la découverte du monde autrement.
Ça s'est pas toujours bien passé, vos renaissances, vos évolutions, vos changements de cap. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'ait pas toujours été compris, ni soutenu, d'ailleurs?
Parce que la majorité des gens n'aiment pas le changement.
En particulier en France.
Je sais pas, mais c'est vrai que les gens se rassurent beaucoup dans leur quotidien lorsque rien ne bouge, lorsque ils vivent par exemple toujours toute leur vie dans la même maison, et c'est pour moi ce serait catastrophique.
Ça serait le cauchemar, Jeanne.
Oui.
À quelles étiquettes est-ce que vous avez eu le sentiment d'être sans cesse ramenée, sans cesse réduite, vous?
Je dirais pas réduite, mais remise dans une case, la case des années 80, quand je voulais évoluer musicalement. Et en fait, mais ce n'était pas de la réduction, c'était juste moi qui voulais juste apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, impressionner, voilà. Et en fait, c'est ça, les gens m'avaient aimé d'une certaine façon, ils ne voulaient pas me voir autrement.
Et comment on fait pour lutter contre ça alors? Qu'est-ce qu'on fait?
On lutte pas, on laisse faire et on continue sa vie.
Ou alors on part?
Ben voilà.
On part, on quitte la France pour recommencer à zéro, c'est ce que vous avez fait?
C'est ce que j'ai fait, en changeant de nom et tout, comme...
Comment ça, en changeant de nom?
Oui, là-bas j'ai changé plein de fois de nom, je me suis réinventée 15 fois.
Vous avez changé de nom?
Oui, voilà.
Vous êtes appelée comment?
Oh, j'ai plein de noms. Le nom maintenant qui commence à savoir, c'est Jean Baker.
Jean Baker?
Oui, j'adore. J'ai signé des courts-métrages sous Jean Baker.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé, Jeanne Masse, en partant vivre, en partant travailler aux États-Unis?
La liberté de me renouveler sans être critiquée ni jugée.
Un pays aussi où le nom Jeanne Masse n'était plus connoté. Parce qu'il y a des Jane, il y a des Manson, mais il n'y a pas de Jeanne Masse.
Hein. Non. Non, mais même ça me gênait, quoi. Et quand des gens me reconnaissaient dans la rue et me disaient Jeanne Masse, j'avais peur. C'était très, très, très bizarre.
Parce que ce n'était pas vous?
C'était plus moi. En fait, c'est moi sans être moi, en fait. Et c'est très, très, très bizarre parce qu'en fait, c'était toute une partie que je voulais annuler puisqu'on m'avait, on m'avait fait mal. Donc, Jeanne Masse, elle souffrait. Donc, alors que Jean Baker, elle souffrait pas.
Je vais vous dire, moi, Jeanne, votre livre, je l'ai lu comme le récit d'une femme brisée, hein, quand même. D'une femme hantée par la peur d'être rejetée. D'une femme qui comprend pas pourquoi, à un moment, elle a été mise à l'écart par la presse, par les critiques. Est-ce que ça vous est arrivé d'être un peu amère aussi?
Non, juste très triste.
Triste?
Pourtant, parce que l'amertume, pardon, je vous interromps, je crois que l'amertume amène une certaine rancœur et moi je n'en ai pas en fait. J'ai juste été triste et je me suis dit c'était choix et puis voilà.
Des choix, des erreurs aussi, il y en a eu?
Certainement, des erreurs bien sûr, ce que je pense être une erreur, mais avec le temps, parce que sur le moment pour moi ça n'en était pas. Enfin, si, à un moment, si, le choix, certains choix musicaux, mais en même temps il fallait bien que... Pour une fois que j'écoutais, j'avais mal écouté.
Mais pas seulement musicalement, il y a aussi dans le livre certaines interventions publiques, vous en parlez, je pense notamment à un échange avec François Mitterrand. Il faut nous raconter, qu'est-ce qui s'est passé?
Enfin, moi, je l'ai jamais rencontré personnellement, ça c'était Daniel, mais moi je lui avais écrit une lettre au moment où j'étais scandalisée par des viols d'enfants et des meurtres d'enfants, et c'est vrai que ça a été très mal interprété et très mal pris, et surtout récupéré par des partis auxquels je n'adhère absolument pas, puisque moi je n'adhère à aucun parti, et encore moins à celui-là. Et donc en fait, ça a été un amalgame, et ça a été surtout une mauvaise interprétation, je crois qu'on avait juste envie de casser du sucre sur ma tête et ils s'en sont donnés à cœur joie.
Ça vous arrive souvent de vous dire que vous n'avez pas du tout été comprise?
Non, j'ai trouvé que... Oui, ben non, comprise, c'est pas grave qu'on me comprenne pas. L'important, c'est qu'on soit pas injuste.
En fait, j'ai l'impression que vous avez été peu conseillée, peu accompagnée, quand même.
Ouais, ben oui, si l'on m'avait conseillée, j'aurais commis moins d'erreurs.
Et ce qui est certain, Jeanne Masse, est-ce que vous rendez palpable, c'est quand même la joie. C'est quand même l'euphorie, le bonheur de vos débuts. Et juste pour le plaisir, parce qu'on est vendredi, vous me pardonnerez, Jeanne Masse, parce que les auditeurs l'ont pas oublié, parce qu'une première fois, bah, ça s'oublie pas. Ça a même été, vous savez, le titre de ma toute première émission de radio qui s'appelait Toute première fois.
Ah, c'est génial.
Vous croyez ça?
Ah non, je savais pas.
C'était un hommage, Jeanne. Et un sauvetage aussi, ça s'oublie pas, Jeanne.
Ah oui. Ouais.
C'était bien quand même les années 80. Allez, une dernière pour un peu de tendresse. Si j'en garde une pour plus tard quand même, pour après.
En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. En échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir.
Vous arrivez à les réécouter, ces chansons?
Bien sûr.
Quand est-ce que vous avez su que vous seriez chanteuse, Jeanne Masse?
En fait, ça s'est passé, j'étais toute petite, j'avais vu Sheila à la télévision, mais je pensais qu'elle était virtuelle, et puis un jour je l'ai vue.
Non, mais. Nous aussi. Parfois on pense qu'elle est virtuelle, jusqu'au jour où elle est venue dans Boomerang.
Ah oui, moi, le jour où je l'ai croisée dans la rue, j'ai eu un choc, et je me suis dit, alors, si elle peut chanter, moi je peux chanter, c'est à partir de là, je crois que j'avais 8 ans, et je me suis dit, ce sera ma vie.
Il paraît que vous faisiez des spectacles devant vos camarades pour un oui ou pour un non?
Oui,
tout le temps.
Oui, alors moi, c'était non-stop. J'ai monté des spectacles dans les centres culturels avec 3-4 papis qui me regardaient. Mais j'étais à fond dans tout. Je venais à la maison de la radio pour me faire passer pour une Claudette parce que je voulais absolument être prise. Enfin bon, j'ai toujours su que c'était ma vie. C'était, voilà.
Et le besoin d'être regardé aussi, dont vous parlez dans le livre, il vient d'où, à votre avis?
Le besoin d'exister, je crois que c'est le besoin d'exister pour les autres, que les autres vous remarquent et tout ça. Peut-être que ça vient de très très loin, peut-être de mon enfance où on ne me voyait pas. Et en fait, après, bah, on essaie de dire, mais j'existe, regardez.
Pourquoi vous ne voyez pas?
Je ne sais pas, en fait. C'est une analyse très simplote, comme ça, je n'ai pas analysé. Il faudrait que je réécrive un autre livre pour analyser, parce que celui-là, ça m'a pris un an et j'ai compris des choses.
D'ailleurs, vos parents, vous n'en parlez jamais dans le livre. Ils vous regardaient, vos parents?
Je sais pas. Oui, certainement. Ma mère, elle m'a regardée un petit peu. Enfin, vous dites quand je suis devenue célèbre. C'est ça qui a tout changé.
Dans quelle famille est-ce que vous avez grandi? Quel type de famille?
Oh, ben ça, j'ai pas envie d'en parler. Parlons du livre.
Non, bah oui, c'est-à-dire que le livre est sur votre vie, Jeanne. Donc, à un moment
non,
donné...
sur ma vie artistique. Oui, c'est ça qui est plus important.
Pas seulement. C'est important.
Oui,
il y a aussi une trajectoire.
Des moments,
un
mais
parcours.
J'ai toujours laissé ma famille de côté parce que j'ai pas le droit, je crois, de les impliquer dans, dans tout ce qui est. Public,
À chercher le regard des autres, est-ce qu'on finit pas par risquer d'en faire trop? C'est ce qui a pu vous être reproché, parfois.
Oui. D'ailleurs. Bah oui, j'en faisais trop parce que je voulais qu'on me remarque. Donc, à chaque audition, j'en faisais 3 tonnes. Et surtout quand je devais faire partie d'un groupe de nanas et que j'en faisais 3 tonnes parce que je voulais sortir. Et à chaque fois, on me disait, mais arrête, tu en fais trop. L'esprit de groupe, c'est tout le monde est au même niveau. Et j'ai jamais pu.
Ça voulait dire quoi? Chanter trop fort? Bouger dans tous les sens?
Ah oui, oui, oui.
Pousser les gens, Jeanne?
Ah oui, non, mais me mettre devant carrément, oui, c'est sûr.
Vous mettre devant?
Ah oui, oui, oui. Non, mais j'explosais, cela dit, je veux dire, j'atténuais les autres. C'était mon but.
Aujourd'hui, le regard des autres, c'est devenu quoi pour vous? Vous en fichez?
Non, non, absolument pas. Les autres sont toujours très importants. Je tiens compte du regard des autres et la preuve, c'est que bon, je fais toujours attention à comment je me présente aux autres.
Celle qui n'a que faire du regard des autres dans cette émission, c'est un problème pour le coup. Peut-être que vous la connaissez, c'est la culture, Jeanne, et son actualité vraiment too much. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 10 mai?
Mon travail, c'est traduire des émotions et... ou avec des mots, ou avec des tapisseries que ma grand-mère veut absolument que je montre à Venise. J'ai même pas le choix, quoi. Donc...
Puissiez-vous vivre une époque intéressante? C'est le thème choisi pour la 58e Biennale internationale d'art de Venise qui va durer jusqu'en novembre prochain. En tout, 79 artistes invités pour réfléchir à la complexité du monde et en réponse au populisme sommaire. Respect de la vie privée, identité de genre, catastrophe migratoire, pour rendre compte de la diversité mais aussi de la noirceur du monde. Chaque artiste a créé deux versions de son œuvre. Côté français, la formidable plasticienne Laure Prouveau a investi le pavillon tricolore avec Vois ce bleu profond te fondre, une œuvre tentaculaire qui mêle tapisserie, sculpture, vers vidéo et performance. Oh dja dja, y'a pas moyen dja dja, j'suis pas ta gata dja dja, genre en katana baby tu dettes ça. Oh dja dja, faut aller voter dja dja. Spotify a lancé hier une grande campagne d'engagement citoyen pour inciter les utilisateurs à aller voter lors des élections européennes le 26 mai prochain. Pour ce faire, la plateforme a créé une playlist qui regroupe 28 chansons, une par pays de l'Union européenne. Et pour la France, c'est le tube dja dja de la diva R&B Aya Nakamura qui a été retenu. En plus de ça, Spotify enverra un message de rappel à ses utilisateurs, les invitant à ne pas oublier de se rendre aux urnes. Le taux de participation est estimé pour l'instant à 40%. En Kachana, baby, on dette ça.
C'est là qu'on atteint cette notion essentiellement proustienne d'extratemporalité.
Le printemps, du côté de chez Proust, à l'occasion du centenaire du prix Goncourt à l'ombre des jeunes filles en fleurs, les villes, Illy, Combray et Chartres proposent 10 jours de fêtes littéraires au programme défilé de calèches, championnat de Madeleine, mais surtout expositions, concerts, rencontres consacrées au petit Marcel, au Goncourt, à la Belle Époque. Un salon du livre est même prévu le week-end du 18 avec plus de 50 auteurs, dont une dizaine de lauréats du prix Goncourt et en présence des 10 membres de la prestigieuse Académie. On est pour.
Je vis pas ma vie, je... La rêve, le soleil se lève et moi aussi, c'est comme une maladie.
Il y promenait ses anomalies, il y décrassait ses antennes. Un an après la disparition du grand Jacques Higelin, une cérémonie d'hommage est organisée demain au Parc Montsouris à Paris. Un concert de la violoncelliste Sonia Vidar-Atherton, une chorale d'enfants et des cuivres honoreront sa mémoire en musique près du fameux kiosque que le rocker chantait dans sa chanson de 1988. La maire de Paris, Anne Hidalgo, inaugurera ensuite une allée du parc au nom de Jacques Higelin. Cœur avec les doigts. Et Jeanne Masse, invitée de Boomerang ce matin pour Réminiscence, son autobiographie dans laquelle vous revenez sur une période assez intrigante qui précède le succès de toute première fois, votre période romaine,
oui,
votre période italienne.
La partie la plus sympa à écrire.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Pourquoi? Moment de joie?
C'était que de la joie. C'était sympa de revivre le film de toute cette période.
Le film?
Oui, parce que pour moi, je regarde ma vie comme un film et donc du coup, c'était bien. Je me suis reproposer tout ça et j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup souri.
Quel genre de film est-ce que ce serait votre vie, tiens? Comédie romantique? Une success story?
Je sais pas.
Un mélo?
Un mélo, voilà.
Moi, je sais pas, moi. C'est vous qui me dites. Votre période romaine, italienne, elle est intéressante. Pourquoi est-ce que c'est en Italie que vous êtes partie tenter votre chance au tournant des années 80? Pourquoi là-bas?
Alors, j'en sais absolument rien. Je pense que j'étais très douée en italien et que voilà, je suis partie parce que j'étais douée en italien. Je me suis dit bon bah c'est l'Italie, c'est comme quelque chose que je ressentais en moi et donc voilà, j'ai pris un train et je suis allée là-bas. C'est instinctif, je crois qu'on fait des choses parce que c'est notre vie, notre karma ou j'en sais rien.
Et quelles images, quels souvenirs, quels sont de quoi est-ce que vous vous souvenez exactement quand vous êtes arrivée en Italie?
Je me souviens de tout ce voyage que j'ai fait. On était 3 filles dans le train. Il y avait moi qui partais à l'aventure, une qui partait étudier et la troisième qui partait voir son copain. Et on était 3 nanas dans cette voilà wagon couchette. C'était très très drôle et je me souviens encore de cette sensation et puis d'arriver à Rome avec tous ces scooters et tous ces gars qui vont faire bellissima, belle. Je me suis dit oh mon Dieu, faut absolument que j'apprenne bien l'italien pour pas me laisser avoir parce que là les gars ils s'arrêtent comme ça, ils sentent hein, quand t'es une étrangère, donc ils sont tellement dragueurs. Hein. Et puis voilà. Et après j'ai rencontré que des gens formidables. formidable.
Le paysage musical italien, Jeanne Mas, ressemblait à quoi à l'époque? Qu'est-ce qui passait à la radio? Qu'est-ce que vous écoutiez? Vous vous souvenez?
Ouais, mais j'écoutais Franco Califa, non, avec qui j'ai travaillé par la suite. J'écoutais Mattia Bazar. Il y avait des artistes. Moi, j'adore Mina. Aussi, c'est, mais j'adore toute la musique italienne. J'avais le sang italien quand je suis arrivée là-bas. Je me suis dit, mais je suis italienne et j'avais l'impression d'avoir vécu des vies précédentes en Italie. C'est pour ça que je me sentais à la maison, quoi.
Et en quoi ce passage par l'Italie a été déterminant pour vous? À votre avis?
Parce que j'ai tout appris. D'abord, j'ai appris mon métier parce qu'on m'a donné la chance de pouvoir le faire. On m'a fait faire aussi des albums, pas des albums, des singles. Mais surtout, j'ai commencé à tourner. J'ai commencé à me connaître artistiquement, faire mes premiers pas. C'était extrêmement important. Puis j'ai rencontré mes premiers compositeurs aussi. Enfin, c'était pas les tout premiers dans ma carrière, mais c'est ceux qui m'ont aidé après à conquérir le marché français et le public français.
En fait, on commence à vous voir, c'est ce qu'on comprend vraiment en lisant votre livre, et on voit une forme de charisme, une façon d'habiter votre corps, d'habiter l'espace. Un jour, vous êtes engagé sur la tournée d'un chanteur qui s'appelle Franco Califano pour danser et faire un numéro de clown en début et en fin de spectacle, et l'acteur Roberto Benigni, qui assistait au spectacle, vous couvre de louanges. Qu'est-ce qu'il a vu en vous, à votre avis ?
Je sais pas, parce qu'il est quand même lunaire, hein. Mais c'était tellement comme ça. Et vous êtes, c'est moi. Et j'étais vraiment assez gênée. Mais il était formidable. Et puis pour une petite jeune comme moi, c'était, oh my god, c'est Roberto Benigni, c'était formidable.
Face à vos danses, la danse qui a toujours fait partie de votre univers, Jeanne, qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez, vous?
Une libération totale. Je continue de danser. Quand j'avais mes enfants, je dansais pour eux. Danser, c'est la meilleure des thérapies avec la musique et c'est libératoire. Mais on débloque son dos et tout, hein, quand on danse. C'est génial.
Vous allez peut-être m'y mettre, moi, alors.
Ah, c'est bien.
Quand je danse, j'oublie tout.
Oui.
Mes peines, mes peurs, mes désillusions, mes frustrations, cette adolescence qui me pèse. Je danse pour moi, mais aussi pour les autres, parce que je danse comme personne d'autre. Je suis né pour être vu. Qu'est-ce qui vous distinguait, Jeanne Mas, en fait? Qu'est-ce qui vous distingue quand vous dansez? Mais pas seulement, d'ailleurs, à votre avis?
Je sais pas, c'est tout ce que je ressens, c'est juste, voilà, c'est être vu, exister. Après, c'est les autres qui me voient ou me voient pas, je sais pas. Mais c'est, vous savez, c'est ce qu'on ressent, donc. Mais danser, c'est vrai que j'ai toujours dansé et que j'ai toujours remarqué que quand je dansais, on me remarquait.
Vous parlez de l'adolescence, dans cette citation que j'ai lue. Quelle adolescente est-ce que vous étiez? Vous?
Une adolescente tourmentée parce que j'étais prise entre mon devoir envers mes parents et mon envie de liberté et de vivre autre chose, de vivre dans la différence totale. J'avais pas envie d'avoir une vie normale.
Et quel rapport est-ce que vous entreteniez avec votre corps à l'époque, ce corps que vous avez longtemps mis à rude épreuve?
Ah bon?
Bah, un peu, quand on lit votre livre, non?
Oui. Ce corps, en fait, j'en avais besoin pour avancer et pour marcher, mais c'est vrai que c'est un corps, quand on est femme, qui est toujours en danger, enfin souvent, quoi, et c'est assez embêtant, et je sais pas, je me suis très souvent éloignée de mon corps, parce que je voulais plus ressentir certaines choses, mais après, dès qu'on danse, on a besoin de ce corps. Donc après, ce corps devient formidable.
C'est une façon de se le réapproprier.
Ouais, tout à fait.
Chanter, danser sur scène, donner de la voix lors d'un concert devant des milliers de personnes, comme à Bercy par exemple, c'est quelque chose qui vous manque physiquement, ça?
Non, pas Bercy. Parce que Bercy, c'était trop grand pour moi. Moi, j'aime l'intimité, parce que sans ça, je vois pas les gens qui me voient. Et comme j'ai besoin de les voir, Bercy, c'était trop immense pour moi. Et je les entendais, mais je les voyais pas. Et là, aujourd'hui, avec des salles plus petites, comme le Casino de Paris, les Folies Bergères ou l'Olympia que je vais faire en 2020, je vois les gens. J'ai besoin de les voir, j'ai besoin de ce contact. En plus, moi, je parle beaucoup sur scène. J'ai besoin de les entendre, de discuter avec eux, de les faire monter sur scène.
Et de se regarder. J'adore que tout soit une question de regard, en fait.
Exact.
Ah bah, alors, regarde, on se regarde, hein, tous les deux. C'est le moment de se laisser aller. Hein. Et de nous laisser aller sur Johnny Johnny.
Ouais.
Ce morceau que je garde pour moi, tiré de votre tout premier album en 1985. Vous êtes sur France Inter avec Jeanne Mas. Vous écoutez Boomerang. On est vendredi. C'est bientôt le week-end. Et soudain, allez savoir pourquoi, ce matin, vous n'avez plus peur du manque, de la solitude, des amours déçus, des incertitudes. Vous êtes là à écouter la radio. Et tout va bien, tout va très très bien.
La nuit ouvre ses fenêtres sur la planète des Saintes, s'écrase dans une cité.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors évidemment, moi, naïf, je m'attendais à ce qu'elles soient toutes de rouge et noir vêtues. Vous me connaissez, que nenni. On est quelque part entre le petit oiseau, ma voyante qui s'appelle Numa, et Laure Adler avec sa blondeur paille, son visage en triangle, son regard perçant. Elle a quelque chose de mystique. On s'attend à tout moment à ce qu'elle dégaine la boule de cristal, le mar de café, le pendule, les tarots, et qu'elle se mette en transe en vous chantant la bonne aventure. Que vous appeliez Johnny Johnny ou Oggy, avec son béret parisien, ce matin gris souris, sa jupe noire plissée et ses belles bottes Bariolé Jeanne Masse, invité de Boomerang, pour réminiscence, l'histoire de sa vie. On vient d'entendre Johnny Johnny et je suis pas le seul à avoir été ému par ce texte. Daniel Balavoine, qui en a perfectionné les arrangements, je crois, vous l'enviez, cette chanson.
Le texte, oui, il m'a dit ça m'énerve que quelqu'un d'autre écrive ce texte avant moi.
Pourquoi ?
Je sais pas, je pense qu'il voulait me faire plaisir.
Mais je suis pas sûr parce que c'est un titre extraordinaire. Là, pour le coup,
oui,
je le dis sans aucune ironie.
Mais Balavoine m'a donné tellement de force et tellement d'encouragement et je crois que quand je lui ai fait lire le texte, il était pas dû, puis il sentait que j'avais besoin de son approval, de son consentement et sans doute d'un compliment parce que j'en avais besoin.
Ça vous arrive quand vous écoutez les jeunes chanteuses ou les jeunes chanteurs, aujourd'hui les jeunes musiciens, de retrouver ces sons des années 80 et de vous dire en fait?
Non, en fait, j'écoute pas beaucoup de musique et je sais pas trop ce qui se passe dans les nouvelles générations. Le seul groupe que je connais actuellement, ça s'appelle Portugal Demain. Et c'est tout ce que j'ai écouté dernièrement parce qu'il me fait danser. Alors du coup, voilà. Et j'écoute pas ce qui me fait pas danser.
Daniel Balavoine, puisqu'on en parlait, qu'est-ce qui vous a apporté musicalement?
Tout. Oh, il m'a apporté la confiance en moi. Je suis devenue l'artiste que je suis certainement grâce à lui. Et il m'a donné cette force qui me manquait. Enfin, j'avais une détermination, mais je manquais de confidence. Et il m'a donné cette
de confiance, vous voulez
dire. De confiance, ouais. Et il m'a donné cette confiance en moi. Voilà, par rapport à ma voix, par rapport à mon interprétation, et c'était essentiel pour moi parce que jusque-là, j'étais pas très appréciée de la part de mon compositeur et arrangeur qui était Romano et qui était assez dur avec moi, et donc du coup, je perdais souvent confiance.
Hein. Apprendre sa mort à Daniel Balavoine, quel choc est-ce que ça a été pour vous ?
Ça a été, c'est comme la fin du monde. Déjà, on s'y attend pas. Et puis, ensuite, on a du mal à se relever, quoi.
Et qu'est-ce qui, pour vous, faisait son génie à Balavoine? Vous qui vouliez, qui vous donne sa chanson, les cris, les SOS, quand il voulait jouer pour la première fois en studio.
Ouais.
Qu'est-ce qui faisait son génie?
Son génie, cet homme était unique, en fait. Déjà, c'était un grand, artiste d'une sensibilité incroyable, bon, en dehors du charisme et tout ça quand on le rencontrait, mais il avait une sensibilité qui allait au-delà de l'artistique. C'est un homme qui voulait parler des autres, qui voulait aider les autres à travers ses chansons.
C'est pour ça que c'était un grand parolier aussi.
C'était un énorme parolier, un grand mélodiste aussi, un très bon arrangeur, hein, parce qu'il faisait tous ses arrangements. Il s'entourait de gens talentueux, mais c'était lui qui faisait ses arrangements. Et en fait, c'était un révolutionnaire, mais dans le bon sens. Il était pour le peuple, pour aider les gens, pour arrêter de duper les gens. Et c'est y a plus d'artistes comme lui, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire vos chansons, vous ?
Tout de suite, à toute première fois.
Tout de suite ?
Enfin, les chansons, les textes. Après, j'ai composé également, mais dès le début, j'ai commencé à écrire mes textes avec toute première fois.
Mais il y avait eu des chansons avant, non ? Que vous aviez écrites ?
Ah oui, avec le rock, oui, oui. Ben là, je m'en souviens plus trop, tellement c'était débile. Hein.
Ça parlait de quoi ?
Oh, bah alors, ça parlait... Alors là, je m'en souviens même pas. C'était des mots, mais c'était en anglais. Et en fait, la personne qui travaillait, enfin, qui me soutenait à ce moment-là, m'a dit, écoute, écris tes textes en français. Et je lui ai dit, t'es sûr ? Elle me dit, oui, parce que en français, ça va être mieux, tu vas mieux t'exprimer. Et il avait tout compris aussi. C'était le manager de Pino Daniele.
Alors, arrive toute première fois, poser des mots sur des émotions, sur des impressions. Quel bien est-ce que ça fait, Jeanne Masse ? Qu'est-ce que ça vous a fait ?
Ça a fait que je comprenais ce que je disais.
Déjà,
et
c'est pas mal.
Et encore. Avec Sauvez-moi, j'ai souvent confondu. Mais au moins, je comprenais ce que je disais.
Dans des textes, des chansons, il y en aura d'autres. Je vous pose la question parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous sortez un disque, vous dites que c'est le dernier. C'était le cas pour PH il y a 2 ans. Vous n'allez quand même pas nous faire une Nana Mouskouri, Jeanne.
Non, mais comme je suis imprévisible, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en écrivant cette biographie, il y a eu des moments, c'était tellement difficile que j'avais besoin de musique pour ressusciter. Parce que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir avec mon livre. Et du coup, la musique m'a ravivée. Et puis, j'ai trouvé que tout était cohérent. différent et voilà. Donc, mais je suis imprévisible. C'est vrai que lorsque j'ai voulu arrêter, lorsque j'ai dit que c'était mon dernier album, je venais de perdre mon compositeur fétiche et adoré et ami aussi. Donc, j'étais dans une période. J'étais totalement dévastée. Je supporte très très mal le départ des gens.
Les mots, ça aide.
Les mots, ça aide. Oui, les mots, ça aide.
Y compris les mots des autres qu'on chante.
Ah oui. Ah bah là, je découvre. Bien sûr, j'ai fait cet album de reprises et je découvre les mots de Michel Berger qui m'émeut. Bon, ceux de Balavoine m'ont toujours touché énormément. C'est vrai, mais il y en a plein. Il y a plein de bons auteurs en France et ça a été une joie immense de pouvoir les interpréter.
C'est une chanson de Michel Berger justement qui s'appelle Que l'amour est bizarre que vous avez choisi de reprendre ce matin et qui figurera je crois sur ce prochain album de reprise. Qu'est-ce qu'il vous fait ce titre en particulier, Jeanne?
Il me donne la chair de poule. C'est incroyable qu'avec des mots aussi simples on puisse dire autant, que ce soit aussi profond.
C'est ça que vous recherchez vous aussi?
Ouais.
Toujours?
Ouais.
Alors on vous écoute, accompagné par Cyril Barbessel qui vient de nous rejoindre dans le studio, qui s'est installé au clavier. C'est à vous.
D'accord. Oh pardon, il faut reprendre parce que j'ai pas mon casque.
Dieu, que l'amour est bizarre. Je te crois sans te voir. Hier, je te parle sans savoir que je t'aime déjà. Dieu, que l'amour est bizarre. Toi, tu vivais dans le noir. Je t'écoutais sans voix que tu m'aimais déjà. Mais comment te jurer quoi sans comprendre comment ni pourquoi. Dieu, que l'amour est bizarre. Vois, je l'oublie en un soir. Vois, comme je perds la mémoire.
Qui reprend Que l'amour est bizarre de Michel Berger. C'est dans Boomerang exclusivement. Merci à vous, à Cyril Barbessol au clavier, à Anne-Laure Cochet et Charles Pellabon à la prise de son très belle ce matin. Je rappelle que Réminiscence, Jeanne, votre autobiographie paraît mercredi et qu'un triple best-of de vos chansons paraîtra le 17, je crois, en attendant ce disque de reprise. Goodbye, je reviendrai fin mai. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Boomerang aussi. Lola Costantini en rouge et noir, Valentine Chedebois et son cœur en stéréo, Léonard Billot, l'enfant, Pierre Martine Riparle, Oussakas, Paul Guillot, toute première fois, et Jean-Baptiste Audibert. La Geisha, tout de suite, les médias, avec Sonia De Villers, vous m'entendez, Sonia?
La Geisha, c'est moi? Non.
Non, c'est une chanson, figurez-vous, une chanson de Jeanne Masse. Révisez vos classiques, Sonia, s'il vous plaît, ça nous évitera quelques moments d'embarras.
Et je vous rappelle qu'on est dans des studios France Inter et que tous les studios de France Inter sont en rouge et noir. Salut Augustin.
Oui, c'est vrai.
Bravo pour votre esprit.
Bye bye.